Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ils se rencontrent une nuit de la Saint-Sylvestre et un an plus tard, ils vivent ensemble avec la fille de 10 ans qu'il a eue d'un premier lit, comme on dit. La femme a 33 ans, il est un peu plus âgé. Parisien, bobo, dirait Sandrine Chaperon. Quelques années se passent au cours desquelles l'horloge biologique commence à s'agiter. Le couple essaie d'abord d'avoir un enfant avec insouciance, de manière dite naturelle. Au bout d'un an d'échec, ils ont recours à une insémination artificielle, puis deux, puis trois. Le désir d'enfant de l'homme ne résiste pas beaucoup aux difficultés, leur désir tout court ne s'en sort pas mieux. Puis, le parcours médical s'alourdit et le temps presse. Sa fertilité décroît vertigineusement à partir de 38 ans. À 40, la sécurité sociale ne rembourse plus aucun traitement. Petit à petit, c'est la femme seule qui porte le désir d'enfant, accomplit les démarches, planifie les tentatives, que lui se contente d'accompagner de bonne grâce. Chaque essai de fécondation in vitro est une montagne russe d'émotions dont elle ressort essorée comme du tambour d'une machine à laver. Puis vient la dernière tentative, annoncée comme telle. Elle s'accroche, il consent à ce nouvel essai. Il dira plus tard qu'elle l'a supplié, quasiment forcé. Il signe néanmoins son consentement et se rend gentiment faire son prélèvement. Mais l'humeur n'y est pas, le couple est abîmé, par la PMA, l'usure ou l'ennui, l'histoire ne le dit pas. Deux semaines après l'implantation de l'embryon, le test de grossesse est positif. Mais il faut attendre 3 mois pour être sûr, durant lesquels la joie n'est pas exactement au rendez-vous de cette famille recomposée qui vit dans l'attente de quelque chose de terrible. Il dira plus tard qu'il s'est senti piégé, acculé. Il sort de plus en plus tard et bientôt prend une maîtresse. Classique. Dès la première échographie, où l'on voit l'embryon bien accroché, il décide de s'en aller. Il la quitte, la plante là, après 5 ans de PMA, avec sa fille de 17 ans et un bébé à venir. Ce que la PMA peut faire au couple ou pas, Adila Benedjaizou ne le saura pas, elle qui se demande pour l'instant combien de fois elle a le droit de recommencer, combien d'échecs elle pourra supporter. PMA hors la loi, c'est le 6e épisode de cette série d'Adila Benedjaizou et vous connaîtrez à la fin quelques nouvelles des personnages principaux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Voilà, on va vous montrer l'image de l'embryon qu'on a choisi pour le transfert.
D'accord.
D'accord.
C'est lui.
Ici, c'est un blastocyste.
D'accord. Et je peux savoir la catégorie, parce que je sais que vous mettez
A, B, C, D. C'est 5BA.
5BA.
Oui. Alors, le maximum, c'est 5 et de lettres, c'est 1A. Alors, c'est presque top qualité.
Ah bah ouais.
Parfait. Alors, on va prendre la feuille avec la
date. Tu vois, il est déjà plus dedans, là. Et nous, on a percé le truc pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à hop, l'insérer dans le vagin. Et ensuite, tu pousses au fur et à mesure et chlic.
Je suis célibataire, en fait, et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront, comme
je
elles voudront.
Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes
en
de
fait,
même sexe.
En fait, moi, je ne suis pas née d'une étreinte.
Il y en a qui disent que c'est dégoûtant.
Jamais je me suis dit, même par rapport à mon homosexualité, ça ne va pas être possible.
Il faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine.
Procreatec, para español, marque uno.
Et le problème, c'est que plus t'essayes, plus t'as peur.
On a mis l'embryon dans l'utérus. Maintenant, la biologiste va vérifier que le cathéter est vraiment vide. D'accord.
Je suis revenue en Espagne, chez Procreatec, pour une nouvelle tentative de fécondation in vitro. Mais cette fois-ci, c'est une FIV double don. C'est-à-dire que l'embryon qu'on me transfère est issu de l'ovule d'une donneuse et du sperme d'un donneur.
J'espère que ça ira bien. Dans 12 jours, vous devrez faire le test de grossesse.
Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez me redire le pourcentage de...
Mais non, avec cet embryon, on a environ 60% de taux de réussite.
D'accord. Le recours à l'ovule d'une femme plus jeune a considérablement augmenté mes chances. Je suis passée directement de la Moldavie à la Suède.
Bon, Adila, très bonne chance.
On espère.
Moi aussi, j'espère.
Au revoir.
Au revoir.
Pour que le transfert se passe au mieux, avant de venir, j'ai subi un traitement qui a calé au jour près mon cycle menstruel avec celui de ma donneuse. Durant les 15 jours qu'a duré ce traitement, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette jeune femme avec qui je faisais un pas de deux ovulaire à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Qui était-elle? Que faisait-elle? Les donneuses espagnoles sont anonymes, mais ma clinique a accepté de me faire rencontrer l'une d'entre elles. Évidemment pas la mienne. Et c'est encore une fois la précieuse Ferrielle qui a joué les interprètes.
Vale, yo me llamo Laura y tengo 27 años.
Elle s'appelle Laura et elle a 27 ans.
Et yo estudio veterinaria.
Elle fait des études de vétérinaire.
Y además trabajo de camarera.
Et à côté de ça, donc elle est serveuse et elle travaille aussi dans un gymnase.
Fue una época de mi vida que yo estaba donando, yo siempre.
Elle, à partir de ses 18 ans, elle a décidé, en fait, de donner son sang. En Espagne, c'est très commun d'être donneur. Donc, du coup, elle s'est inscrite à tous les types de dons. Donner ses plaquettes de sang, enfin, plusieurs dons, dont les dons de cheveux aussi. Et donc, le don d'ovocytes, c'était juste. Pour elle, un don supplémentaire.
Aider d'autres personnes qui en nécessitent. Et elle a appelé à la clinique.
Et après, elle a donc décidé d'aller de l'avant et de faire le don. Et donc, on fait passer un test avec un psychologue d'abord. Puis après, les tests médicaux. Les tests.
De sangre, génétique.
Voilà, de sang et génétique.
Et me llamo la clinique.
À la clinique, on lui a dit que maintenant, on allait attendre qu'une réceptrice soit disponible. Donc, du coup, elle a attendu un mois et demi, deux mois à peu près. Et on lui a dit qu'on avait une réceptrice. Donc, du coup, on lui a demandé si elle voulait donner à ce moment-là. Et elle a dit que oui.
Et c'est vous-même qui vous faisiez les injections?
Sí, o sea, pincharme, sí. Me las preparaban aquí en la clínica para dos, tres días.
Donc, d'abord, elle faisait les injections elle-même. Au début, donc, ce sont les infirmières qui montrent à la donneuse comment préparer, comment faire les injections. Et comme elle fait des études de vétérinaire, à ce moment-là, elle n'avait pas du tout de problème au niveau des injections et d'utiliser des seringues.
Pues, bueno, yo doné, he donado más de una vez.
Donc, elle a déjà donné trois fois. Donc, la première fois, c'était un peu curieux parce que du coup, elle a réagi lentement au traitement. Pour les deux autres fois, du coup, les médecins ont ajusté le traitement pour elle. Et donc, du coup, ça allait mieux pour les deux fois suivantes.
Est-ce que vous avez l'intention de donner encore d'autres fois?
Si, si surge, si. No me importa.
C'est simple pour elle. Si on continue à l'appeler de la clinique pour lui demander si elle veut donner, c'est qu'il y a encore des gens qui en ont besoin. Donc du coup, c'est comme le don du sang. On ne peut pas donner qu'une seule fois. Il faut donner continuellement.
Et est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous dit combien il y a d'embryons qui sont nés de votre don d'ovocyte?
Non, on dit.
Ça, c'est totalement privé.
Ça, c'est totalement privé. Donc, on ne communique pas.
Et ça vous arrive d'y penser? Qu'il y a peut-être des enfants qui sont nés de votre don?
Madre es la que lo gesta y lo tiene, entonces yo solo he ayudado.
Non, elle n'y pense pas vraiment. Pour elle, c'est juste qu'elle a aidé comme un médecin ou un infirmier. C'est la mère, c'est celle qui le porte.
Pour vous, le don d'ovocytes, c'est comme tous les autres dons? Il n'y a aucune différence?
Non.
Et est-ce que elle peut me dire, enfin, si ça ne la dérange pas, combien elle est indemnisée pour un don?
Et ça, je pense qu'on ne peut pas le dire. Ça dépend de chaque donneuse, en fait.
Et une fourchette? Enfin, non, sauf si elle considère que c'est indiscret.
C'est pas ça, c'est que moi, on m'a dit que c'était pas possible de l'aider.
C'est un concept de las molestias, no es.
Si, c'est en fait, de toute façon, c'est ce qu'on appelle nous ici une compensation financière, c'est pas être payé réellement, c'est comme ça qu'on compense les donneuses.
Et, mais par exemple, quand elle a eu cette compensation, est-ce qu'elle s'est dit qu'elle allait faire un usage spécial de cet argent?
Pour les études. Oui, bien.
Vous êtes frustrée ? Moi aussi. La question des donneuses et de leur indemnisation est si sensible que je n'ai pas pu obtenir mieux que cette interview très cadrée.
Vous avez payé au total 5 205.
Ouais.
Donc c'est 6 380 moins 100. Ça donne ce
tableau. Ouais. En revanche, j'ai pu additionner 2 et 2. En comparant le coût d'une FIV sans don d'ovocytes et d'une FIV avec don, j'en ai déduit que les donneuses devaient toucher environ 1 000 euros. C'est pas beaucoup, mais est-ce qu'on doit en conclure que ces jeunes femmes donnent uniquement par altruisme ? Je ne pense pas. D'autant qu'en général, elles donnent plusieurs fois, jusqu'à 6 fois. J'en suis sûre à présent, je bénéficie d'un système qui monnaie le fait que des femmes jeunes de l'Europe pauvre aident des femmes vieilles de l'Europe riche à avoir des enfants.
Du coup, on arrive à 7 075.
D'accord.
Du coup, il reste à 1 175.
Oui, c'est 8 250 moins 60.
C'est lesté de ce don qui m'a coûté 8 000 euros que je reviens à Paris, avec la perspective d'attendre encore une fois 15 jours avant de savoir si je suis enceinte. Pour cette deuxième tentative, l'attente devient vite insupportable. Je m'angoisse à l'idée d'un nouvel échec, je doute de mon désir d'enfant et je décide de rencontrer Karine.
Je suis en train de m'installer à Toulouse, donc de chercher encore mon cocon. Et voilà, je vais avoir 45 ans bientôt.
Karine a déjà fait 3 tentatives de FIV avec don d'ovocytes.
Je sais qu'il y a ces embryons-là qui m'attendent. Je ne suis pas sûre d'avoir la force d'y retourner.
Aujourd'hui, ce que tu te dis, c'est que peut-être tu vas abandonner ce projet.
Oui, ça m'attriste, mais il faut avoir énormément de courage et de force et de conviction. Et j'ai des peurs qui reviennent.
Comment s'est né ce projet ?
J'y pensais depuis plusieurs années, parce que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Des enfants, une famille, ça a toujours été mon rêve de vie. Et voilà, j'ai pas trouvé le compagnon avec qui avoir un enfant. Et l'envie d'amour, hein, de donner, de recevoir est plus fort que tout. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait ça pour être heureux, tout simplement. Vivre sans amour, c'est pas possible. Et pour moi, mettre au monde un enfant était aussi quelque chose que je trouvais être la plus belle chose qui existe au monde. Donc c'est pour ça que le choix de faire une insémination plutôt qu'adopter était évident pour moi. Et je suis allée en Espagne, on m'a dit que j'ai dû faire des examens, on m'a dit que j'étais en insuffisance ovarienne et il fallait donc s'orienter vers le double don. Et il se trouve que je suis allée en République tchèque parce que j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait fait là-bas et qui m'a conseillé, qui m'a dit qu'on était très bien entourés, etc. Tout s'est fait par mail, en anglais, enfin parfois en français, tout d'une manière extrêmement efficace, rapide, pas de sentiments, pas d'accompagnement psy. Mmh. Et moi, le traitement qu'ils m'ont donné était trop fort. Hein. Pour la première fois, ils m'ont donné un traitement de 1 mois et demi, et en fait au bout d'une semaine déjà je sentais que j'étais trop nerveuse, et ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, c'est normal, etc. N'étant pas suivie par un médecin en France, je leur ai fait confiance, j'ai continué le traitement, et en fait j'étais à la fin, je dormais plus. Je suis arrivée le jour J et voilà, donc la clinique m'annonce que il y a 6 magnifiques embryons qui m'attendent, mais aucun contact avec le médecin directement, et pas de discussion, de préparation, voilà. Or moi là déjà j'étais vraiment très nerveuse et je leur disais je me sens pas très très bien, je sais pas si je vais y arriver, quoi. Et il n'y a pas eu d'accompagnement à ce moment là Et j'ai fini par dire, dernier jour, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Il faut stériliser les embryons et je reviens. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit que c'était la première fois que ça arrivait. Ils ont eu peur que je ne paye pas. c'était presque un problème pour eux, alors que c'était énorme pour moi de dire non, énorme. Mais voilà, il faut y aller, quoi. Il faut pas. Après, toute seule, c'est différent. Il faut être particulièrement armé psychologiquement, ouais. En fait. Et je pense que je l'étais pas.
Mais quand même, tu n'abandonnes pas à ce moment-là.
Non, à ce moment-là, je me remets doucement. Arrive l'attentat. J'ai connu l'attentat de 2015 à Paris.
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi le jour de l'attentat ?
J'étais donc au Carillon, donc je reçois des éclats de balles dans le dos et je vois le désastre.
T'as été blessée du coup si t'as reçu des...
J'ai des cicatrices, mais y a pas de... on peut pas les enlever, c'est des toutes petites, des morceaux de grenaille en fait. Parce que c'est trop compliqué et le corps supporte très bien des corps étrangers. Et après les quelques jours d'angoisse, enfin de traumatisme, après on prend conscience de la vie et de la chance d'être là. Et là, l'envie de mettre au monde un enfant revient. Mars 2016, j'y retourne avec, donc en prenant le traitement comme il faut, avec un dosage beaucoup moins fort. Tout va très bien, très bon accueil dans la clinique.
Et on t'a proposé de te transférer combien d'embryons ?
Deux. Je prenais le risque d'avoir des jumeaux.
D'accord.
J'y vais franchement et je couve en leur parlant tous les jours, accrochez-vous. Et avec les effets quand même du traitement qu'on prend, on est persuadé d'être enceinte parce qu'on a l'impression d'avoir tous les symptômes de la femme enceinte. Et quand on fait l'examen et que c'est négatif, c'est un peu décevant. Et quand j'ai voulu y retourner l'année dernière... Mes règles se sont déclenchées 10 jours avant le rendez-vous à la clinique. Donc, je vais voir un médecin, un échographe qui me dit, avant même de m'ausculter, me dit, je pense que tout va bien, c'est juste que vous culpabilisez de faire un enfant toute seule. Donc voilà, donc ça arrive. J'apprends en même temps qu'un de mes boulots s'arrête. Plusieurs choses arrivent et sont compliquées à gérer dans ma vie. Et l'envie de mettre au monde un enfant se délite un peu. En fait, les embryons, je les ai jusqu'à mes 49 ans. Mais voilà, le temps passe et j'ai commencé à 41. Je vais avoir 45, ça passe très très vite.
Le paradoxe de la procréation assistée, c'est que plus on multiplie les tentatives, plus on multiplie ses chances de réussite, mais plus on multiplie aussi son angoisse et ses doutes. Je suis en totale empathie avec Karine, tout en me répétant que si je veux que ça marche, il faudrait que je sois plus positive. En gros, je deviens un peu zinzin.
On est samedi 23 septembre. C'est le jour de mon test. Je suis allée ce matin à 8h faire une prise de sang et normalement, d'ici le début de l'après-midi, j'aurai les résultats pour savoir si je suis enceinte ou pas. Donc là, je suis avant. Avant d'être enceinte ou avant de ne pas être enceinte. Et c'est vraiment un drôle d'état. C'est insupportable. C'est-à-dire que je pense que je serai mieux quand je serai après, même si je ne suis pas enceinte. Là, j'en ai vraiment marre. Bon, comme je supporte pas d'attendre, j'ai fait un truc bizarre. Je cherche un canapé-lit, parce que si jamais j'ai un bébé, j'ai avoir des soucis de chambre, il faudra que je dorme dans mon salon. Et donc, j'ai appelé pour un super canapé-lit que j'adore, mais il y a déjà quelqu'un qui a appelé avant moi. Donc, la personne m'a dit qu'elle me rappelait uniquement si ça se faisait pas avec l'autre personne. Donc, du coup, j'ai deux choses à attendre aujourd'hui. J'ai la réponse, est-ce que je suis enceinte ou pas, et est-ce que je vais avoir le super canapé lit ou pas. C'est un super truc parce que si je suis pas enceinte mais que ça marche pour le canapé lit, je serais contente. Si je suis enceinte et que ça marche pas pour le canapé lit, je serais hyper contente parce que c'est pas très grave cette histoire de canapé lit. Mais si ça marche pas et que j'ai pas le canapé lit, eh ben, c'est bien aussi parce que si je suis pas enceinte, j'ai pas besoin de canapé lit. Donc c'est du win-win-win. Enfin, je crois.
Salut.
Je vais chez mon ami Joseph pour découvrir mes résultats.
Salut Sacha, comment ça va ?
Il vient d'avoir un bébé et je me dis que ça va me porter bonheur.
Ouais, j'ai besoin d'un ordinateur, mais...
Mais dès le début, ça se passe très mal.
Oh, le suspense.
Non, mais merde. Ah, c'est chiant, il va falloir que je retourne chez moi.
Oh non.
J'ai perdu mes codes d'accès.
Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais regarder des résultats, mais j'ai pas mon identifiant sur moi. Est-ce que vous pouvez me le donner ? Ah non ! Vous êtes sûr que vous n'avez pas accès ? Parce qu'en fait, justement, je suis venue ce matin parce que je veux des résultats aujourd'hui. Alors, c'est Bene Jaizou, B-E-2-N-E-D-J-A-I, Adila. Ah, génial. Voilà, exactement. Ok, merci. Oui, Bene Jaizou, Adila, ouais. Ouais. Trois semaines, d'accord. Positif à 1550. Mais donc, ça veut dire que c'est très positif ou faut que j'en refasse un ou... Ah, d'accord, ok. Super, ben merci beaucoup, madame. Merci, au revoir.
Donc, oui,
je suis enceinte. Ah putain, c'est hallucinant. Ça me fait super bizarre.
Mais à 1150, ça veut dire quoi ?
Je sais pas. Elle m'a dit juste... Oui, vous êtes enceinte. Ah putain, ça fait super bizarre.
Bah ouais.
Je sais pas...
Bah moi aussi, hein. Ça se voit pas pour moi.
Allô ? Vous allez me dire, j'ai un peu mis le canapé avant les bœufs en annonçant la nouvelle à tout le monde juste après un premier test.
Eh ben, je viens d'apprendre que je suis enceinte.
Vraiment à la minute, hein.
À la minute, je
Mais c'est une des caractéristiques d'une PMA hors la loi. C'est que votre entourage est au courant de votre grossesse avant même qu'elle n'ait eu lieu.
Voilà. Voilà, bah ouais, c'est trop bien. Hein.
On continue sur cette lancée, chérie, on ne s'arrête pas. Ouais, c'est génial.
Ouais, c'est cool.
Ah là, ouais. là, on reste tout à fait calme,
ouais,
et sereine. Hein.
On reste enceinte, on reste concentré sur le fait de rester enceinte.
On reste concentré.
D'accord.
Oh, c'est chouette. Ah, c'est bien. Oh là là. C'est bien ça. Ah, je rigole comme un crétin. Bah tiens.
Ah, quel bonheur. T'es contente?
Ouais, je suis hyper contente.
Vas-y, quand même. Ah là là. C'est dingue qu'on soit obligé de déménager, sinon je serais moquée à Paris. Faire la fête un petit peu.
J'ai un autre truc à te dire. J'ai trouvé un super méga canapé que je vais voir cet après-midi. Tu peux le regarder, oui. C'est sur le bon coin. À partir de là, quoi vous dire ? Pas grand-chose. D'abord parce que ma grossesse a été semblable à celle de n'importe quelle autre femme. Et puis surtout parce que, comme le dit un ami, le bonheur n'a jamais rien à raconter.
Vous pouvez venir.
Non, elle va très très bien. Au début, ça a été un petit peu dur l'arrivée.
Ouais.
On l'a aidé un petit peu à s'oxygéner. Puis là, ça va. Tu la sens, là.
Ouais, enfin, ben, voilà. Je sais pas comment faire. Est-ce que
À ma sortie de la clinique, ma cousine Nadia est venue me voir et m'a répété une chose que vous savez sans doute déjà. Dans ma famille, les Bene Jai, on se mariait entre cousins germains jusqu'à la génération de mon père.
J'ai regardé Yuri, mon bébé 2.0, qui est né de 3 individus, un homme et une femme inconnus et moi, 3 individus qui ne se sont jamais rencontrés et ne se rencontreront probablement jamais.
Ah oui, c'est son pouce. Regarde, il a mis son pouce dans sa bouche.
Ses doigts lui suffisaient pas, visiblement, ce qu'il voulait, c'était vraiment le pouce.
J'ai eu l'impression d'être un de ces villages d'Afrique qui n'ont jamais eu de ligne téléphonique et sont passés directement au portable. Je me sens à la fois vieille comme le monde et catapultée dans le futur. Mais c'est peut-être ça, être parent.
Ouais, on est bon. Yuri, t'es prêt? T'es prêt à entendre ton message de bienvenue?
Voilà.
Allez, on y va.
C'est bon?
Ouais. On dirait que tu dis Yuri.
Yuri.
Une dernière chose. En général, quand on raconte des histoires de PMA, qu'elles soient hors la loi ou pas, ce sont des PMA qui ont réussi. Or, ça ne marche pas toujours. Je ne voudrais pas que mon happy end vous donne une image biaisée de la réalité. Et je veux penser à ceux qui sont encore en route. Selma, qui veille sur ses ovocytes congelés. Lisa, qui a décidé d'abandonner le Danemark pour la Grèce. Maud et Estelle, qui continuent à jouer de la seringue avec Yagous. Et Karine, qui a décidé de donner une nouvelle chance à ses embryons, qui l'attendent en République tchèque.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été avec PMA hors la loi, dernier épisode d'une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Cécile Lafont avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci au docteur Izquierdo, à Laura Ferriel, Karine, Joseph, Laura, Sacha, Véronique, Attica et Richard. Merci également à Sandrine Chaperon, Céline Autin et Camille Richir. Sachez que depuis la première diffusion de cette série en octobre 2018, eh bien Yuri a fêté ses 2 ans. C'est évidemment un enfant extraordinaire. Par ailleurs, un projet de loi permettant l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires a été adopté en février de cette année, en 2020, par le Sénat en première lecture et devrait passer devant les députés incessamment si ce n'est pas déjà fait.